Bonjour, bienvenue à Villeneuve-sur-Lot. Avant de commencer, allez donc vous mettre au milieu de la place, dos à la fontaine. Face à vous, à gauche, la maison Firmin Barrier. Et à droite, le clocher de l'église Sainte-Catherine. C'est bon ? Alors je me présente, je suis la voix off, le fil conducteur de cette balade sonore. C'est moi qui vous guiderai à travers la Bastide, de rue en rue et d'un témoignage à l'autre. Vous allez circuler pendant 1h10 à l'écoute de celles et ceux qui vivent ici et je vous accompagnerai en vous donnant toutes les instructions nécessaires pour ne pas perdre le fil de la balade. Et si vous avez peur de vous égarer, rappelez-vous que la brochure dont vous êtes muni contient un plan du parcours. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Souvenez-vous d'autre part que vous êtes autonome. Je vous invite à mettre pause dès que vous le souhaitez. Dernière chose, cette balade est bien sûr loin d'être exhaustive. Cependant, si vous souhaitez plus d'informations, trois compléments sonores vous attendent sur le trajet, que vous aurez le choix d'écouter ou non. Si vous ne souhaitez pas les entendre, il vous suffira, sur mes indications, de passer à la piste suivante. Allez, j'ai beaucoup trop parlé. On démarre ? Avant de partir, commençons par nous plonger un petit peu dans l'histoire de cette bastide. De quand date-t-elle déjà ?
La construction des bastides commence avec la période essentiellement de Louis IX, le futur Saint-Louis, qui a pris conscience que dans le pays, il y a beaucoup de population. Il faut des lieux de marché pour regrouper l'activité économique et aussi pouvoir regrouper les populations pour pouvoir constituer des armées quand on en a besoin. C'est intéressant parce que Villeneuve a une date de fondation, avril 1264. Peu de villes ont des dates aussi précises. On a un texte qui nous donne le moment où officiellement la ville est fondée.
Donc c'est une ville qui s'est établie assez rapidement, puisque à la fin du XVIIIe siècle, on pense qu'il y avait déjà 6000 habitants.
Allez, on y va. Vous avez vu la maison Barrier ? On va partir de là et prendre la rue de Paris en direction de la tour. Mettez vos pas dans les miens. Avant, il y avait des commerces prestigieux dans cette rue.
La rue de Paris, oui, ça a toujours été la rue très 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 commerçante, avec de très beaux commerces. Il y a 50-60 ans, c'était l'Eldorado du commerce. On venait de partout à Villeneuve-sur-Lot. Les gens venaient de très très loin. Et j'ai connu un marchand de tissus qui s'appelait Forest. Il faisait rentrer 3 camions par semaine de tissus. Et la plupart des commerçants avait au minimum 8, 10, 12, 14 employés.
Rue de Paris, il y avait une superbe fromagerie qui était au coin de la rue du général Blagnac, je crois. Et ce fromager, c'était un vrai fromager, c'est-à-dire qu'il ne mettait pas ça au frigo. Hein. Il affinait, il avait des grilles et il retournait les fromages tous les jours. Voilà.
Il y avait une fromagerie, ah oui, tout à fait. Il y avait d'excellentes charcuteries, il y avait des boucheries. Moi, j'ai vu dans la rue Sainte-Catherine faire la queue devant la boucherie dehors. Et il y avait ici, effectivement, une crèmerie à cet endroit.
Il y avait un photographe assez connu qui avait inauguré ici à Villeneuve la photographie aérienne, parce qu'il avait monté un club d'aviation. Et voilà, il avait ce magasin, mais lui, il était toujours en avion pour faire des photos, et il vendait ses reportages, etc.
On va passer sous la tour de Paris. Attendez-moi de l'autre côté.
Si on se replace dans les années 50, 55, 60, à cette date, Villeneuve est en pleine expansion. Il n'y avait pas moins de 20 épiciers au centre-ville, 10 boulangers, 10 pâtissiers. Donc l'attraction de la ville de Villeneuve était très importante. Actuellement, rue de Paris, il n'y a pas un commerçant qui habite rue de Paris, pour la bonne raison qu'ils ont fait le choix d'habiter hors ville, dans des lotissements, enfin chacun a fait des choix différents.
Beaucoup de commerçants avaient leur commerce en rez-de-chaussée et leur logement à l'étage. Donc le moyen d'accès, c'était par un escalier intérieur. Et souvent, ces commerçants avaient fait construire dans les années 60 la villa Bien entendu, quand ils ont pris leur retraite, ils sont partis à la villa. Et ils ont loué leur local, ben, avec le local rez-de-chaussée et la partie étage qui devenait une réserve. Et sans accès sur la rue.
Mais replacez-vous donc 50 ou 60 ans en arrière, tout le monde habite au centre-ville, ce qui fait que le soir à la fermeture des magasins on se retrouve, ce qui fait que le matin on boit le café ensemble, on se parle.
Ici, c'est un lieu symbolique pour les Villeneuvois.
Il faut savoir que tous les Villeneuvois qui partent loin de Villeneuve pour des raisons professionnelles ont comme référence sur la Porte de Paris. Lorsque vous, une personne de passage, demande, je sais pas, le théâtre ou n'importe quoi, on lui dit, écoutez, vous voyez la Porte de Paris ? Et après, on lui explique.
C'est vrai que c'est une tour qui est là aussi un lieu où on s'arrête, où on discute, où on se rassemble. C'est un lieu de rendez-vous facile aussi.
C'est là où il y a les terrasses. Donc, évidemment, dès qu'il y a un rayon de soleil...
Oui, c'est vrai que les cafés sont très, très occupés, très, très investis. C'est une très belle chose. On est dans le Lot-et-Garonne, hein, on vit à l'extérieur.
On va s'avancer sur la portion de trottoir devant nous, à gauche, juste derrière les boîtes aux lettres.
On recule un petit peu pour voir l'ancien emplacement du castel, un très grand café avec billard et compagnie. Il était juste contre la tour de Paris et donc il occupait tout cet immeuble. Les deux bistrots qui sont là.
Le bar de la ville, très fréquenté par les notables de la ville, puisqu'il était en plus le siège du rugby de Villeneuve-13 à l'époque, où Villeneuve-13 c'était vraiment quelque chose de très important, c'était le Castel à la Porte de Paris. Alors c'était un très beau café, très chic.
Continuons notre chemin en longeant les terrasses jusqu'à la prochaine à gauche. Ça ressemblait à quoi avant ici ?
Il y avait une forte activité dans les cafés.
Le glacier, il était blindé. Ils viraient les mecs à coups de pied au cul à 2h du matin, mais plein.
Moi, je ne suis jamais rentré chez moi le soir sans passer au Tortoni, à l'apéritif. C'était la fête. Ah oui, oui.
Il faut mentionner aussi un petit bar bien sympathique, plus loin, au bout du boulevard. C'est le bar des Allées.
C'est un bar où il y a des concerts. Enfin, c'est un bar super vivant. C'est un lieu de lien social. La patronne, Jo, est... Et le cuistot Nicolas sont des gens qui sont motivés, ont envie de faire bouger les choses. Et...
Voilà, on essaie de mettre une petite pièce à l'édifice de la ville en faisant de l'animation et en faisant vivre un lieu pour tout le monde en fait.
Vous m'attendrez au prochain croisement. Regardez sur le trottoir d'en face, ce grand bâtiment. C'est le théâtre. Il a du succès, paraît-il.
Ah oui, à tel point que cette année par exemple, pour les abonnements, 4 heures de queue. Ça n'a jamais vu. Le directeur du théâtre a dû à un moment donné aller acheter des pizzas pour donner aux gens qui attendaient.
C'est des queues énormes pour pouvoir avoir un abonnement, espérer avoir un abonnement en tout cas. Les gens se sont appropriés le théâtre de Villeneuve, complètement.
Il y a quand même un musée, le théâtre, le centre culturel, des associations et beaucoup beaucoup de choses qui sont faites justement pour soutenir cette dynamique culturelle.
Et puis il y a tout qui est représenté.
Vous pouvez faire la musique, de la danse, de la danse africaine, de la danse cubaine, la salsa, la musique, tous les instruments puisque vous avez l'école de musique. Vous avez beaucoup de groupes, de petits groupes.
Il y a même une batucada. Voilà.
Vous êtes à l'angle de la rue des Ciotat. Prenons-la.
Ben, la rue des Ciotat, c'est très rigolo parce que quand je suis arrivée à Villeneuve, on me disait « ne va pas traîner dans la rue des Ciotat, c'est dangereux ». Du coup, on va passer deux secondes sur la notion sécurité dans la ville. Bon, moi, je dis souvent que c'est un sentiment d'insécurité, il y a beaucoup d'incivilité, bon, voilà, un peu comme partout. Moi, je peux te dire que je suis rentrée des fois très très tard de l'agence, je n'ai vu personne, personne ne m'a agressée. Quand les jeunes, quelquefois dans ma rue, ont un peu abusé, ben voilà, je suis allée les voir, je leur ai dit qu'ils exagéraient un peu. Voilà, c'est la jeunesse, hein.
Bon. Il y a des gens à qui ça intéresse de parler d'insécurité dans la ville. Ça les regarde, il faut donner des actes. Ça dérange certains commerçants bourgeois qui ne voient pas la population qu'ils veulent sous leur porte, c'est tout. Enfin, c'est très facile d'aboyer et de dire c'est insécurisé.
Je vois pas.
Vous prendrez à droite, là, dans la rue du Général Gouget.
Oh, les gens, ils ont peur de nous. Parce qu'on traîne en bande. Mais bon, on n'est pas méchants. Mais notre dégaine, je pense pas que vous avez la même dégaine que nous.
On voit tous marcher en groupe en fait, c'est ça. On voit tous en jogging, en groupe. Je sais pas, la couleur de peau si ça compte.
Vous voyez les flics partout tourner, ils mettent des caméras partout, donc les gens ils se sentent Dès qu'il y a trop de sécurité, c'est là où ils sont dans... qu'ils ont peur, tu vois ce que je veux dire.
Parce que c'est vrai qu'à des moments, on peut retrouver, il y a des groupes assez importants, 15, 20 jeunes qui sont là, donc les passants, ça peut déstabiliser un peu, ça fait un peu peur, et des fois, la peur, elle est tout simplement mais au faciès, à la vue de l'autre, qui apparemment a des différences, et donc il y a des jeunes qui vont interpeller les gens, ou les apostropher, etc., et donc ça entretient le climat. Mais il y a aussi des phénomènes inverses où c'est les gens qui jouent pas le jeu et qui rendent pas le bon jour. Et donc je pense qu'aussi il y a une, comment dire, un regard du monde adulte général qui a pas un regard bienveillant sur la jeunesse.
On a pu entendre des adultes dire, sans connaître un jeune, juste parce qu'il a une casquette et il habille un peu hip-hop, que c'est un délinquant. Et il fut une époque où quand tu avais un pantalon bien serré et un blouson noir, tu étais un délinquant aussi.
La population vieillissante ne laisse pas forcément la chance à tous ces jeunes. Et qu'on ne leur offre pas non plus la possibilité de s'exprimer, de faire autre chose, etc.
Ces groupes de jeunes ont toujours été, se sont toujours postés à des lieux à la vue de tout le monde, sous le regard de tout le monde. Donc nous, en tant que d'UXPE, ça nous a toujours interrogés, quoi. Alors qu'effectivement, il y a 10 000 endroits sur Villeneuve où les jeunes pourraient se poser et ils ne verraient personne, ils seraient tranquilles. Ben, je sais pas, en périphérie du centre-ville, t'as plein d'endroits où...
Mais avant, on se posait, c'était à Carême, sauf qu'ils ont tout démoli. Moi j'habitais là-bas. Mmh. Ouais.
Ouais, mais même quand il y avait des jeunes qui étaient à Carrère, il y avait d'autres jeunes qui étaient en ville, etc. Quoi. Et moi je pense que inconsciemment, les jeunes envoient un message aussi, quoi. Ben on est là, on existe.
Bah ouais, c'est ça.
Puis voilà.
Au bout, on tournera à gauche.
C'est pas tchac ici, c'est bien quand on est petit. Mais après quand on grandit, il faut bouger.
Après, il y en a qui...
Dans tous les cas, de toute façon, si on veut avoir un bon travail et un gros diplôme, il faut bouger toute ville. On n'a pas de fac ici ou quoi. Voilà, de quoi qu'il arrive, si on veut avoir un diplôme, on part tous à Bordeaux ou Toulouse.
Et ensuite, il n'y a pas de travail. L'agriculture n'emploie quasiment plus personne. Donc les jeunes qui sont là et qui ont fini leurs études, ben, ils s'en vont.
On est tous partis faire nos études à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, etc. Mais beaucoup sont revenus ici. Parce qu'à un moment donné, on revient vers nos sources. Et puis bon, j'espère que Villeneuve se rend compte aussi des capacités qu'on peut procurer à la ville. Donc...
Prochaine à droite, et vous m'attendrez à l'angle du boulevard.
Je pense que les jeunes partent pour faire leurs études parce qu'ils ont envie de voir ailleurs, clairement.
Parce que voilà, on apprend aussi de partir. Mais par contre, ceux qui veulent vraiment revenir parce qu'ils sont attachés à leur territoire, qui veulent créer leur foyer carrément, voilà, comment on les accueille? Est-ce que au niveau de l'économie, c'est possible? Enfin.
Un paradoxe parce que la jeunesse, enfin, moi, de ma lecture, est attachée au territoire. Alors que quand on discute avec eux, le premier, ce qui sort, c'est souvent, il n'y a rien à faire, on s'ennuie, on ne veut pas forcément aller ailleurs quand même, quoi. Mais en même temps, si on a réfléchi, partir, c'est pas si facile que ça, il faut être un peu costaud aussi.
Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de s'en aller, ne serait-ce que de trouver un logement, on va avoir les moyens. Hein.
Ça y est, vous êtes sur le boulevard? On va aller s'accouder à la cale de la marine, ce grand auvent métallique que vous voyez sur votre gauche. C'était quoi ce lieu à l'origine?
Il y avait des bateaux qui appontaient
sur cet espace. C'était une cale de commerce, de déchargement et de chargement.
L'activité économique de la ville, elle est bien sûr orientée vers un commerce qui se fait par gabarre, donc ces bateaux qui circulent sur la rivière. Ces gabarres vont de l'arrière-pays, donc du Lot, dans les parties hautes du Lot, la région de Cahors, en direction de Bordeaux. C'est un trafic qui descend les barriques de vin de Cahors jusqu'à Bordeaux pour leur vente, mais pas n'importe quand. Quand le vin de Bordeaux est d'abord vendu, ensuite on autorise le vin de Cahors à descendre.
Donc ici c'était à la descente l'un des deux ports les plus importants, hein, après Cahors.
La navigation sur le Lot va durer jusqu'au début du XXe siècle.
Mais elle va trouver son concurrent principal et qui va d'ailleurs mettre à mort la circulation sur la rivière. C'est la voiture, c'est l'automobile. On peut se déplacer individuellement. On va avoir très vite de quoi déplacer des gens collectivement en groupe et très vite les camions.
Donc la navigation s'est arrêtée. La rivière a été déclassée et après l'hydroélectricité est arrivée par-dessus. Donc les barrages tels qu'on les connaît aujourd'hui, les grands barrages hydroélectriques sur la rivière, ils ont été construits a posteriori. Donc dans les années 50 pour Castelmoron et en début des années 60 pour celui de Villeneuve. Donc la rivière a été utilisée pour autre chose finalement.
Et dans les années 90, la cale a été réaménagée
pour en faire une cale de spectacle, hein, parce avec cette avancée sur la rivière. Hein.
Moi, je trouve que ça a été une très bonne idée de construire ces gradins qui font office de salle de spectacle sur le mercredi soir à la cale, qui est très, 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 très fréquentée.
À un moment, effectivement, ça marche bien, les spectacles en bordure de rivière. C'est pas forcé que ça soit très beau. Hein. Moi, je suis un amateur de patrimoine ancien, mais ça marche.
C'est un truc qui ne sert pas à grand-chose. 5 concerts l'été, point final. Bon, les premières années, restaurant, c'était chouette. On commençait à faire vivre l'autre et ça s'est arrêté. Bon, après, le gros souci, c'est qu'au niveau de l'ensoleillement, vous ne tenez pas là-bas. L'été, c'est plein soleil sur le ciment. C'est le petit souci. C'est un truc énorme qui ne sert à rien. Quoi.
En tout cas, elle est bien utilisée par les pêcheurs pour y poser leurs lignes. Vous aurez d'ailleurs sûrement l'occasion d'en croiser d'autres au cours de votre balade. Allez, on repart. Vous voyez les grands arbres sur votre gauche? Dirigez-vous vers le parking qui se trouve derrière. On va aller s'arrêter un instant au bord du parking. Vous irez vous asseoir sur le petit muret en béton.
Ce sont des religieuses, les religieuses de Notre-Dame qui sont ici. Elles étaient donc installées autour d'une cour, l'actuel parking qui était fermé, hein, fermé sur la rue. Et elles ont d'abord un premier bâtiment du XVIIe siècle que l'on voit, l'ancienne mairie.
Là, le bâtiment sur la droite.
Cette très belle résidence qui s'appelle maintenant résidence de l'hôtel de ville a servi pendant longtemps, depuis la Révolution française jusqu'aux années 90, de mairie.
Mais là, après la Révolution, il y avait non seulement la mairie, il y avait aussi le tribunal,
la sous-préfecture et une prison, une gendarmerie. Mais une prison qui était tellement insalubre qu'on préférait envoyer les prisonniers à Jeun. Le premier théâtre de Villeneuve a été là. Première représentation a été donnée ici sur une partie à gauche.
Et au XIXe siècle, on construit ce qui était devenu la caisse d'épargne.
Celui de gauche.
Alors on voit très bien un bâtiment beaucoup plus ouvragé, beaucoup plus décoré, dans l'esprit des bâtiments que l'on construit à Bordeaux, cette pierre jaune. Et la façade porte des niches dans lesquelles on pouvait mettre les statues. L'actuel parking, en fait, est la cour intérieure de cet établissement. Et on a trouvé autrefois un puits au milieu du parking. Il y a le puits, hein, puisque pendant tous ces siècles, il n'y a pas d'eau courante dans la ville. La présence d'eau courante, c'est quelque chose de moderne. Hein, donc, évidemment, nous avons l'obligation d'avoir des puits dans toute la ville.
Engageons-nous dans la petite rue au fond à droite pour rejoindre le pont des Ciotats.
Thank you.
ce nom d'ailleurs ?
Oh bah, il y a toujours une légende quelque part. Pourquoi ce pont a été baptisé pont des Ciotats ? Ça remonte à l'histoire de Henri IV. Hein. Donc c'est pas d'hier matin.
Rue des Ciotats mène au pont vieux, voilà, au pont des Ciotats, qui ont connu
une famille de dignitaires qui aurait a priori bouté à Reine Margot.
Ouais, hors de
Vineuve. Hors de Vineuve.
Mais alors, ça, bon, la légende.
Qu'est-ce que Margot venait faire ici, ça ? Oui. Bon, on sait pas. Elle voulait prendre la ville.
Oui, parce que c'était une zone de passage. On parlait de l'importance du pont.
Stratégiquement.
Et il fallait que stratégiquement, elle prenne Vineuve.
Elle s'est pointée à la porte de Pujol. Elle a réussi à se faire ouvrir la porte de Pujol. Elle a donc passé sous la tour. Et elle est descendue avec ses cavaliers jusqu'au lot, jusqu'au pont.
Nous aussi, on va le prendre, à droite.
Et elle a fait le siège du pont des Ciotats, parce qu'il y avait, c'était un pont défensif un petit peu.
Au pont, il y avait trois tours à passer à l'époque. Et ces trois tours étaient défendues par des soldats, des militaires, dont le marquis des Ciotats, je crois, plus son fils. Et ils ont dit, nous, on n'ouvre pas la porte, on ne passerait pas le pont.
Et la famille des Ciotats a défendu la ville.
Le père,
oui, mais bon...
Le fils qui le dit.
Ah, oui, mais bon... Donc le fils a défendu, est allé rechercher son père, il a défendu la ville, et il a réussi, effectivement, à bouter la reine Margot hors de Vineuve.
Marguerite,
donc, Marguerite n'a pas pris Vineuve. Mais Marguerite est-elle passée à Vineuve ?
Mystère.
Joli, non ? Jetez un œil au bâtiment moderne, sur la rive d'en face à votre droite, après le club d'aviron.
Tout au long du 18e, 19e siècle, on a des tanneries importantes, dans des bâtiments qui ont disparu, mais qu'on voyait encore dans les années 60, en bordure de rivière, et qui ont laissé la place maintenant à des immeubles neufs. Pour les tanneries, il faut de l'eau, pour pouvoir traiter les évacuations, de laver les pots, les traiter, les tremper, les saler. Et donc, ça se faisait en bordure de rivière.
C'est pas la rivière Lot qui approvisionnait les tanneries, puisque le Lot étant de niveau instable, inconstant, on ne pouvait pas compter sur lui. Dans les sous-sols de la plupart des maisons ici, vous avez des bacs qui sont encore en place, qui étaient des bacs à tanner les pots, qui étaient approvisionnés par des eaux souterraines.
Il y a des sources qui arrivent partout dans toutes ces maisons que l'on voit. Ça ne se voit pas comme ça, mais en fait, ces gens ont des sources, des fontaines dans leurs caves.
Regardez à droite au bout du pont, le long des façades.
Ici, vous avez un escalier qui permettait aux femmes du quartier de descendre au lot.
Ah bah, empruntons-le. Vous allez descendre sur les berges.
Vous voyez d'ici le lavoir du quartier. Alors, les lavoirs étaient construits à peu de choses près, à mi-pente, c'est-à-dire à peu près au niveau où l'eau de source qui descend de Pujol, les collines de Pujol, nous envoie toutes les eaux de pluie qui finissent par arriver à la rivière.
Et ma mère allait laver le linge au lavoir et tout, mais il y avait, je ne sais pas moi, il y avait tous les matins, il y avait au moins 7 ou 8 personnes qui lavaient le linge au lavoir.
Il faut comprendre qu'à sortir de la guerre, il n'y avait pas de machine à laver, il y avait beaucoup de maisons qui étaient très mal aménagées. Moi, la maison où on vivait avec mes parents, il n'y avait pas de salle de bain, hein. Donc il y avait quand même pas mal de femmes qui lavaient dans les lavoirs encore.
Moi, j'ai vu ça dans la rue de l'Écluse. J'avais 30 ans. Il y avait des Portugaises et des Espagnols qui venaient laver leur linge.
Ça y est, vous arrivez en bas des marches ? Prenons à droite pour passer sous le pont vieux, histoire de regarder la vue. Arrêtons-nous quelques instants.
Et donc là, on voit bien ces maisons, cette très jolie façade. Et puis la petite chapelle charmante du bout du pont. Ça, on peut regarder pendant des heures. Alors, le reflet des maisons, c'est pour ça que je parlais de photos. Moi, j'ai l'impression d'avoir une photo dans un bac de révélateurs. La photo qui commence à apparaître. Et évidemment, tout est tête en bas, quoi.
L'image de Villeneuve, c'est le pont vieux et sa chapelle. Tous les étés, vous voyez de nombreux touristes, l'appareil photo à la main, c'est toujours ça.
On repart ? On va revenir sur nos pas et repasser sous le pont. Allez donc vous asseoir sur ce petit banc qui vous tend les bras.
C'est là, c'est intéressant de voir ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'ancienne mairie. Je me souviens d'ailleurs de les gens qui étaient attachés à la municipalité comme mon père étaient invités au 14 juillet. Et alors on était sur cette espèce de balcon derrière qui est magnifique. On voyait tout le 14 juillet les feux d'artifice assez impressionnants à l'époque pour moi. C'était une faute énorme à la cale et en face, surtout en face d'ailleurs. Il y avait la course aux canards. Alors les canards étaient lâchés dans le Lot. Et les nageurs essayaient d'attraper les canards. Y avait le mât de cocagne, bien graissé pour pas pouvoir monter facilement, et trouver le jambon en haut, entre autres.
Les gars qui s'occupaient des fêtes, là, ils achetaient à la campagne une dizaine ou une quinzaine de canards. Ils partaient sur le Lot avec un bateau. Les gars étaient tous sur la rive, là. Et hop, ils jetaient un canard à l'eau, et les gars plongeaient. Et c'était celui qui attrapait le canard, il était pour lui. Puis il y avait les gars qui plongeaient du pont aussi.
C'est vrai qu'au départ, il y avait quand même un antagonisme un peu entre rive droite et rive gauche. Et la rivière était presque une barrière. Mais dans beaucoup d'occasions, c'était aussi un lien. C'est-à-dire que les fêtes du 14 juillet, il y avait des joutes et tout ça. C'était vraiment... Et les gens allaient volontiers sur les plages, il y avait des guinguettes et tout. C'était un lieu de loisir, la rivière.
Vous aviez de superbes plages. Vous n'êtes pas allé au moulin de madame là-bas?
C'est un peu plus loin, en aval.
Il y avait une très très belle plage de sable fin. Alors moi, quand j'étais rive gauche chez mes grands-parents, on partait à pied, on allait jusqu'à madame, ce qui fait quand même une belle balade, et on allait pique-niquer. Mais ça, il y a eu des fêtes magnifiques, là, madame. Ils avaient fait également un genre de petit dancing, vous voyez. Ils avaient fait une plateforme en ciment, et il y avait un bar avec de la musique. Et ça, ça a tenu pendant longtemps, et ça a attiré du monde. Hein.
On continue ? Poursuivez le long de la rivière, à gauche, en direction du club d'aviron. Il y a encore de l'activité sur le Lot ?
Il y a un peu le club de canoë qui démarre, qui commence à venir. Il y a quelques bateaux de tourisme, très peu. Et après, c'est vrai que le club d'aviron, alors, pratique et anime le Lot.
Le club d'aviron, c'est un acteur incontournable du Lot aujourd'hui.
Où là, on a démarré notre base nautique en 2004, donc ça va faire 11 ans. On a évolué normalement, mais on est vraiment, ça nous fait vivre le club. Hein. L'été, en période estivale, on voit passer, pas qu'à l'aviron, on met sur l'eau jusqu'à entre 3 et 4 000 personnes sur l'eau. Je suis rentré par l'intermédiaire d'un fils de dirigeant. En 68, on était en grève au lycée et on ne savait pas trop quoi faire. Et on est un groupe de copains, on est venu à 10 ou 15 à l'aviron. Moi j'habitais au-dessus, je me contentais à l'époque de jeter des cailloux au rameur. Et là j'ai intégré le club et j'en suis plus parti. 11 ans en tant que rameur et depuis 30 ans j'entraîne, je m'en occupe. ça prend du temps, c'est très agréable. Les gamins, bon, on a beaucoup de gamins, très intéressants, ça se passe très très bien. Le club est né il y a 130 ans, ça ne s'est jamais arrêté. C'est le plus vieux club de la ville et on ne s'est jamais arrêté.
Il y a toujours eu de bons gars là, à l'aviron, ça marche ici. Hein.
Disons qu'on a eu bon, un barreur assez célèbre en France qui a fait 5 Jeux Olympiques et 25 ou 30 champions du monde. Et dans les années, en 2005, on a eu 4 ou 5 rameurs de niveau international.
Mais s'il y en a qui n'ont pas arrêté de faire vivre le Lot, ce sont bien les pêcheurs.
Mon père, il ramenait des ablettes, beaucoup d'ablettes, donc c'était le fretin, j'adorais ça. Et j'aimais pas quand il amenait les poissons-chats. C'était pas bon.
Mon père était pêcheur dans l'âme, lui, oui. Mon père, il allait pêcher ce qu'on appelle le cabot, vous savez, les poissons un peu de genre brochet, choses comme ça. Alors il fallait appâter, il fallait faire des mixtures pour attirer le poisson, et puis après, le soir, tout un art.
Emprunter la rampe à gauche pour remonter.
Tout naturellement, à je sais pas, 5-6 ans, mon frère avait 2 ans de plus que moi, on s'est retrouvés sur le Lot à pêcher, à s'amuser, à faire des tas de choses. On n'avait pas les distractions d'aujourd'hui. Bon, il y avait le sport, mais il y avait aussi la pêche qui était une activité pratiquée en famille. Il y avait énormément de pêcheurs. Moi, je suis d'une famille où même ma mère pêchait aussi, mon père, donc on a été amenés très vite à pêcher au bord du Lot. Les pêcheurs, nous sommes les seuls à avoir de tout temps veillé à la rivière, parce que c'est vrai que ça fait partie de notre préoccupation première. Hein. Si on veut pêcher, il faut avoir une rivière pêchable et agréable à pêcher surtout, parce que bon... Le poisson, c'est pas l'essentiel dans la pêche. Hein. On ne pêche pas seulement pour attraper du poisson. Sur l'année, je dois pêcher 2 jours sur 3. Pratiquement, je vous dis 2 jours sur 3 sur ma barque. J'ai pêché en Espagne, j'ai pêché en Angleterre, j'ai pêché un peu partout. Mais ça ne me dit rien d'aller faire un voyage à l'autre bout du monde, mais le faire une fois dans sa vie. Je préfère tous les jours aller passer quelques heures au bord de l'eau. Et au bord du Lot.
On arrive place Lorraine. On va aller s'installer sur un des deux bancs devant vous, pour se laisser raconter la vie du quartier. Imaginez-vous quelques années en arrière, une place sans voiture.
Le soir, à la belle saison, à partir du mois d'avril-mai, les gens sortaient leurs chaises, on se mettait sur le trottoir, et les gosses, nous, on s'amusait. On allait sonner les sonnettes, on allait... Mais bon. Et alors, de temps en temps, il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Vidal, qui avait une petite carriole, il passait, il vendait des glaces. Alors, c'était la grande joie quand on pouvait avoir une glace.
On était un peu les voyous, nous. On était une vingtaine dans le quartier, là. Alors, bien sûr, on était gamins, on faisait toujours des coups, et ceci, cela. Alors, le quartier Saint-Étienne, c'était bon... On faisait que des trucs de gamins, quoi. Hein. On était beaucoup des fils immigrés. Hein. Immigrés espagnols, italiens. Et...
Les loyers étaient moins chers à Rive-Gauche. Donc quand les Espagnols sont arrivés, ben, y en a quelques-uns qui se sont installés de ce côté. Tout le monde vivait ensemble et ça s'intégrait sans problème. Lot-et-Garonne est une terre d'accueil.
Et c'est ça qui fait notre richesse patrimoniale, c'est ça qui soude véritablement l'identité de Villeneuve.
Quand mon père allait voir ses parents et tout, il parlait italien, mais ma mère, elle était de souche espagnole, là. Ah oui, moi, je suis mélangé, hein, je suis métissé, comme dire. Et avec mes frères, on le comprenait, nous. Mais le parler, non, je n'ai jamais parlé.
Bien que ce soit ma mère qui m'ait appris à faire la cuisine et tout, tout ce que je fais n'a jamais... Enfin, je veux dire, n'est pas à la hauteur de ce que ma mère faisait et n'a pas cette saveur. Et pourtant, avec pas grand-chose, elle faisait un truc merveilleux. Et moi, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'arriverai jamais à faire avoir retrouvé ces saveurs. Mes enfants, quand ils viennent, ils me le demandent, mais ils font pas. Un couscous, c'est banal. Enfin, pour moi, je parle. Mais ils préfèrent celui de leur mamie.
Moi, je suis resté vraiment de cœur, vraiment très, 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 très attaché à l'Italie, surtout à la façon d'être.
Je me suis sentie quand même toujours étrangère. Même mariée avec un Français, même avec l'amour que j'ai pour la France. Et ce n'est pas ça. Mais c'est surtout le côté, soit par mes racines, soit par la vie que j'ai vécue avec mes parents qui m'ont parlé toujours de l'Espagne. Mon père m'a donné beaucoup de culture et c'est peut-être ça qui m'a donné toujours l'idée que j'ai. Je suis avant tout espagnole. J'ai deux pays comme Joséphine Baker.
Le Villeneuve, c'est un pays de métis. Alors, ça va défriser tout un tas de gens, mais c'est la réalité.
Comme vous l'entendez, il y a une grande histoire d'immigration dans le Villeneuvois. Si vous souhaitez en savoir plus, laissez le son se dérouler. Sinon, passez à la piste suivante.
On peut considérer que, au fil des siècles, le Villeneuvois a subi les greffes successives qu'ont subies les différentes régions de ce pays. À la fin du XIXe siècle, les révolutions carlistes ont amené dans le secteur ici un certain nombre d'Espagnols. Ensuite, nous avons été confrontés à la saignée de 14-18 qui, elle, a provoqué un apport massif d'Italiens dans les années 20, de Bretons, et également avec le développement industriel des courants migratoires interrégions. Et en février 1939, arrivent sur le territoire les républicains espagnols au moment de la retirade, après le coup d'état de Franco qui a renversé la République. Ensuite, ce qui fait aussi la spécificité du Villeneuvois, c'est que le territoire a été désigné par les pouvoirs publics comme une terre d'accueil pour les rapatriés et les exilés politiques liés à la décolonisation française en Asie du Sud-Est et en Afrique du Nord.
Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ces populations ont été regroupées dans des camps situés sur les communes de Bias, Casneuil, Sainte-Livrade et Villeneuve-sur-Lot.
Et alors, les rapatriés indochinois de Sainte-Livrade vont rester durablement sur le site. Ils sont victimes d'une contradiction politique qui consiste à dire que ce camp est finalement qu'un camp de transit et qu'ils vont rapidement partir, mais il y a aussi manifestement cette volonté de les garder sous contrôle, donc c'est une situation qui est quand même assez complexe. Ce qu'il faut noter aussi, c'est l'arrivée importante de rapatriés d'Algérie qui sont des harkis et des familles de harkis. Et ce courant migratoire va se développer massivement en janvier 63, ensuite de manière un peu moins soutenue, jusqu'en 1968. Et alors, c'est une situation qui est excessivement sensible. Pourquoi ? Parce que ces exilés algériens qui ont fait le choix de la France, par conséquent, à la suite de la décolonisation, sont confinés dans ce camp qui fonctionne sous les règles d'un régime quasi-militaire avec l'extinction des feux. Le soir, on n'a pas le droit de sortir. Pour accueillir des gens, il faut l'autorisation de l'administration du camp. D'une certaine façon, on a substitué le régime militaire des harkas en Algérie au camp de Bias avec la même organisation, la même administration, les mêmes contrôles. Et bien évidemment, cette situation de précarité est un foyer de déstabilisation très très fort pour les jeunes de ces familles qui sont dans le camp. Et c'est cette situation d'enfermement qui suscitera des conflits beaucoup plus forts dont les médias se feront l'écho par la suite.
En 1975, des mouvements de protestation et d'émeutes portés par les jeunes ont éclaté dans plusieurs camps. Ils ont amené à des modifications du fonctionnement de ces lieux, notamment la fin des clôtures et du régime militaire. Des familles sont parties, d'autres ont continué à habiter ces espaces qui sont progressivement devenus des quartiers plus ou moins intégrés au reste de la ville. Si les camps n'existent plus, cet épisode particulier de l'histoire villeneuvoise vient complexifier les questions de vivre ensemble qui, ici comme ailleurs, ne se posent pas toujours sans tension.
À Villeneuve, donc voilà, pareil, quand on va rechercher du côté de l'histoire, il y a eu le camp de harkis qui s'est implanté et leurs familles qui ont été installées là, bon, dans des conditions qu'on peut discuter, et sur une reconnaissance qu'on peut discuter aussi. Mais on sent que cette histoire-là, et donc cette arrivée assez importante d'une population du Maghreb, est venue bouleverser quelque chose à Villeneuve, et on sent que cette difficulté de vivre ensemble ou de se rencontrer, de se connaître, de se côtoyer dans la même bastide, perdure encore aujourd'hui. Mais par contre, on ne sait pas trop en parler. C'est compliqué.
va nous falloir du temps. Il faut que les gens se parlent. Mais ça, aujourd'hui, on a un gros effort à porter sur cette question.
Le souci, c'est qu'on a tendance à regarder plus nos peurs que nos envies en ce moment. Donc, aller vers l'autre alors qu'on a peur de franchir le pas, parce qu'on n'a pas les mêmes codes, mais c'est ce qui fait la richesse d'un lieu. Après, avoir peur de l'autre, c'est facile. Et puis, c'est ce qui se passe aujourd'hui, de toute manière. Donc c'est un carcan qu'il faut éviter pour éviter d'être intolérant, tout simplement.